Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un accord post-Brexit sous le sapin, il a été trouvé hier. Nous reviendrons sur les différents points de friction qui ont fait durer les négociations, notamment le cas des pêcheurs avec Angélique Bouin. Notre correspondante à Bruxelles nous donnera aussi des précisions sur les prochaines étapes et le calendrier. Avant de s'intéresser à l'avenir d'Erasmus, le Royaume-Uni quitte le programme d'échange pour les étudiants européens. Le nouveau dispositif que souhaite mettre en place le Royaume-Uni risque d'être bien plus coûteux pour les étudiants en français. Explication à suivre de Catherine Pétillon. L'homme du Brexit s'appelle Michel Barnier. Le négociateur en chef de l'Union européenne va maintenant se reposer avant de se remettre au service de la France. C'est en tout cas son souhait. Son portrait par Stéphane Robert. Nous ferons aussi le point sur les dernières contaminations au Covid-19 en France. Plus de 21 000 recensés ces dernières 24 heures. En pleine pandémie, le pape vient de délivrer son traditionnel message de Noël. Orbi et orbi à la ville et au monde. Nous avons plus que jamais besoin de fraternité, a déclaré François. Nous irons enfin en Centrafrique à 2 jours des élections, dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Des nouvelles réjouissantes à la veille de Noël. Boris Johnson s'est félicité hier après-midi d'avoir trouvé un accord post-Brexit qui encadrera les futures relations commerciales du Royaume-Uni et de l'Union européenne après son départ de l'UE. Un accord historique trouvé une semaine avant le divorce définitif qui aura lieu le 1er janvier. À cette date, le Royaume-Uni aura abandonné définitivement le marché unique. Le texte d'environ 2000 pages doit encore être validé par les États membres dans les prochains jours. Le no deal, le scénario d'un divorce sans accord a donc été évité et c'est tant mieux pour leurs relations commerciales. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Les Européens ont-ils l'impression de bien s'en sortir aujourd'hui ?
Eh bien, écoutez, si l'on écoute Michel Barnier, il n'y a pas de gagnant dans cette affaire. Hein, mais il a toujours dit c'est perdant-perdant. Il a toujours regretté publiquement quand même ce divorce avec un pays qualifié d'ami et allié. Mais il a donc jusqu'au bout défendu les intérêts européens. D'abord en maintenant leur unité sans faille, ce qui n'était pas gagné. Et on s'en félicite aujourd'hui. Et puis sur le fond, eh bien cet accord, il est qualifié de juste et équilibré. Et en effet, les Européens préservent l'essentiel, leur marché unique, ce vaste espace de libre-échange de 450 millions de consommateurs qui fait quand même la puissance de l'Union face au reste du monde. Les entreprises britanniques vont y garder certes un accès sans quota ni droit de douane, mais elles devront respecter en maintenant un niveau de protection élevé, écrit la Commission dans son communiqué, les principales règles européennes de production en matière de normes sociales, fiscales et environnementales sous peine de devoir payer des compensations. C'est la principale concession de Londres qui a réussi à obtenir le droit d'établir ses propres normes, tandis que Bruxelles se garde donc la possibilité de sévir en cas de dérapage et de protéger donc son marché. Pour ce qui est de la pêche, le détail de l'accord n'est pas encore public. C'est assez difficile de faire la part des choses, mais dans l'immédiat, les pêcheurs européens gardent l'accès aux riches zones de pêche britanniques avec une diminution des prises sur une période de transition, 5 ans et demi, ce qui peut permettre tout de même d'adapter les flottes. On sent du soulagement, mais il y aura de nouvelles négociations à partir de 2026 dans un contexte tout de même moins crispé politiquement. Il faut rappeler que les économies de pêche sont très imbriquées des deux côtés de la Manche. On peut donc espérer dans 5 ans et demi des compromis plus favorables avec Boris Johnson, qui, on le rappelle, en avait fait un totem politique ces derniers mois. Enfin, sur la gouvernance, troisième dossier difficile, le mécanisme pour gérer d'éventuels conflits est complexe, mais là encore qualifié ici de solide, il résistera à l'épreuve du temps, indique le communiqué.
Et maintenant, Angélique, quel est le calendrier ?
Eh bien, les ambassadeurs des 27 États se donnent quelques jours pour analyser le document. Ils devront, sauf vraiment grosse surprise, valider l'accord d'ici quelques jours. Il entrerait donc en vigueur comme convenu le 31 à minuit, mais il sera provisoire car il sera ensuite soumis aux eurodéputés. Et là aussi, particulièrement décortiqué, il doit être ratifié par le Parlement européen avant le 28 février prochain.
Angélique Bouin en direct à Bruxelles pour France Culture. Parmi les nombreuses conséquences du Brexit, on se penche ce midi sur les conséquences pour les étudiants européens. Le Royaume-Uni quitte le programme d'échange Erasmus, un programme aujourd'hui célèbre, créé il y a plus de 30 ans et dépeint avec humour en 2002 dans le film L'Auberge espagnole, réalisé par Cédric Clapiche.
Hola. Ok, espera, wait.
Xavier n'est pas là. Il va revenir, c'est sûr.
I'm sorry. I don't understand French. Maman. Okay, I will tell him. Xavier is going to school. Okay? What? La fuck?
La Britannique Wendy au téléphone avec la mère de son colocataire, le Français Xavier, joué par Romain Duris dans L'Auberge espagnole, un film devenu culte, un peu comme Erasmus d'ailleurs. Des millions de jeunes ont bénéficié de ce programme, Catherine Pétillon.
Chaque année, 17 000 jeunes britanniques bénéficient d'une mobilité européenne et 32 000 Européens traversent la Manche pour aller étudier, parmi lesquels des Français. En 2018, plus de 4 000 étudiants sont partis en Angleterre. Et même si les chiffres baissent légèrement depuis le début des négociations du Brexit, cela reste la troisième destination préférée des étudiants français. Le programme Erasmus permet de poursuivre des études, des stages dans des conditions administratives et financières facilitées. En Angleterre, c'est fini. Le pays a annoncé, sans plus de précision, qu'il mettrait en place son propre programme, portant le nom d'Alan Turing. Mais pour les Européens, venir en Angleterre sera désormais plus cher et plus compliqué. Et les plus touchés seront les étudiants des milieux les moins favorisés, qui ne pourront plus s'acquitter des frais d'inscription. Il y a actuellement 150 000 étudiants européens au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson a expliqué que quitter le programme avait été une décision difficile, car il avait été une chose merveilleuse d'accueillir autant d'étudiants européens. Mais il a avancé des arguments économiques, expliquant qu'Erasmus coûtait également très cher. De son côté, Universities UK International, qui représente les universités britanniques, a évalué que la sortie du programme ferait perdre 280 millions d'euros par an à Londres, un chiffre obtenu en déduisant la participation financière du pays au programme des 485 millions d'euros déboursés chaque année par les étudiants européens présents dans le cadre d'Erasmus.
Le Royaume-Uni va donc développer son propre programme d'échange qui risque d'être bien plus coûteux pour les étudiants français. Une décision que regrette le professeur de droit Thomas Clay, lui-même ancien d'Erasmus.
Qu'il y ait un nouveau programme qu'il a effectivement annoncé hier pour permettre aux étudiants britanniques d'aller étudier dans les universités étrangères, très bien. La France a des partenariats avec Erasmus, mais également avec d'autres pays du monde, et notamment les États-Unis, le Canada, où nous envoyons beaucoup d'étudiants. Donc c'est normal qu'il y ait des programmes qui se mettent en place. Mais l'intérêt d'Erasmus, et c'était ça l'idée européenne géniale en 1987, c'était qu'on paye les droits d'inscription de son université d'origine. Donc quand vous êtes un étudiant français, et ça a été mon cas parce que moi j'ai fait partie de cette première génération d'étudiants Erasmus en Italie, eh bien vous payez votre droit d'inscription dans l'université française, et vous savez que dans l'université française, ces droits d'inscription sont extrêmement bas, quand bien même vous allez étudier dans une université anglaise où les droits d'inscription sont à environ de 10 000 euros par an. Il a dit précisément que le Royaume-Uni était un contributeur net, ce qui est une manière quand même très comptable, voir la construction européenne et cette espèce d'échange de brassage des populations. Vous savez, ces jeunes que nous formons et que nous envoyons dans les pays européens, c'est la meilleure garantie de l'unité européenne, de l'esprit européen, de la culture européenne. C'est aussi la meilleure garantie contre les conflits et même contre les guerres. Donc renoncer à cela, c'est quand même une politique à courte vue.
Thomas Clay, propos recueillis par nos confrères de France Info. Un accord post-Brexit a donc été finalisé au prix de très longues et difficiles négociations menées du côté de l'Union européenne par Michel Barnier. Le Français a expliqué hier avoir désormais besoin de se reposer, de retrouver ses proches. Et les Français, c'est la fin de 4 ans et demi de pourparlers pour celui qui est devenu l'homme du Brexit. Il veut maintenant se mettre au service de la France, Stéphane Robert.
Oui, Michel Barnier rend son tablier après 4 ans et demi de pourparlers avec les Britanniques, et il annonce vouloir désormais se consacrer à son pays. Déclaration faite hier soir dans le journal de 20h sur France 2.
La France me manque depuis 4 ans et demi, et donc je vais maintenant consacrer toute mon énergie à mon pays. Je ne sais pas où et comment où je peux être utile, mais je pense que le problème est d'abord de se rassembler, de réfléchir à ce qu'il faut faire ensemble. Pour notre pays, il y a retrouver la confiance avec les territoires, il y a le respect, l'autorité qu'il faut souvent rétablir, il y a cette croissance écologique, il y a le combat que mène d'ailleurs le président français et que je soutiens dans ce domaine d'une France européenne.
Merci
et c'est
beaucoup.
Aussi pourquoi je resterai tout au long de cet engagement public patriote et européen.
Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Évidemment, lui seul le sait précisément. Mais au vu de son parcours et de cette déclaration, on peut tout de même s'en faire une idée. Michel Barnier aura 70 ans le 9 janvier prochain. Ça fait 50 ans qu'il fait de la politique. Il en a occupé tous les échelons, conseiller général, député, sénateur, eurodéputé, plusieurs fois ministre. Mais c'est au niveau européen qu'il a connu la consécration, puisqu'il a été deux fois commissaire, de 1999 à 2004, puis entre 2010 et 2014 au marché intérieur. En 2014, il avait été en concurrence avec le luxembourgeois Jean-Claude Juncker pour la présidence de la Commission. Il avait échoué. Et puis il avait rebondi en étant nommé négociateur en chef de l'Union pour le Brexit, ce qui l'identifiait aujourd'hui, après Jacques Delors, comme le Français le plus capé au niveau européen. C'est pourtant en France qu'il dit aujourd'hui avoir l'intention de rebondir, et on peut entreapercevoir ses intentions si l'on se fie aux deux mots qu'il a employés hier soir. Vous venez de l'entendre, il a dit qu'il restera toujours patriote et européen. Là, il faut sans doute faire le lien avec l'interview qu'Emmanuel Macron a accordée au journal L'Express, publié il y a deux jours. Le président y emploie précisément cette expression, affirmant cette nécessité d'être à la fois patriote et européen. On peut dès lors imaginer que cette déclaration de Michel Barnier hier soir est une sorte de clin d'œil, d'appel du pied, une manière de dire au chef de l'État français, eh bien, qu'il est là et qu'il est disponible.
Stéphane Robert, il s'agit d'un bon accord équilibré et juste pour chaque partie, estime de son côté Ursula von der Leyen. Nous pouvons enfin laisser le Brexit derrière nous et nous tourner vers l'avenir, a déclaré la présidente de la Commission européenne. Cet accord a été trouvé la veille de Noël, une sorte de petit miracle après des discussions très longues, on l'a compris, et une année particulièrement difficile. La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies dès le mois de mars et le premier confinement. Alors l'envie de se retrouver pour Noël était particulièrement forte pour certains, mais attention toujours à respecter les gestes barrières. Les autorités sanitaires ont recensé plus de 21 000 nouvelles contaminations en 24 heures, d'après les derniers chiffres publiés hier soir. Un nombre en hausse, mais pas si inquiétant, Juliette Pietraszewski.
Oui Margot, c'est la ruée sur les tests avant les retrouvailles en famille autour de la table qui explique en partie cette augmentation. Juste avant Noël, plus de personnes se sont fait tester, par conséquent le nombre de cas détectés est mathématiquement plus important. Rien d'alarmant donc pour l'instant. Déjà la semaine dernière, plus de 2,35 millions de tests avaient été effectués, une hausse de plus de 50% par rapport à la semaine précédente. Du coup, ce qu'il faut regarder Margot, c'est le taux de positivité. Il est lui en baisse. Le taux de positivité, je vous le rappelle, mesure le pourcentage des personnes positif sur l'ensemble des personnes testées. Début décembre, il s'élevait à 6,4%. Hier, il était à 3,8% selon Santé publique France. Et c'est pour ça que le nombre de 21 000 nouvelles contaminations n'est pas aussi inquiétant qu'on pourrait le penser. Il faudra attendre environ deux semaines pour savoir si les fêtes de fin d'année auront, oui ou non, Margot, augmenté le chiffre des nouveaux cas positifs. Dans les hôpitaux, ces dernières 24 heures, on compte presque 300 décès. Un chiffre en légère augmentation par rapport à la veille. Le bilan des décès dans le pays depuis le début de la crise est maintenant de plus de 62 000 personnes.
Et la vaccination contre le Covid-19 commencera dimanche en France auprès de personnes âgées volontaires pour se faire injecter le vaccin de Pfizer et BioNTech. La campagne va s'élargir progressivement à partir du mois de janvier. Les premiers flacons devraient être livrés demain. Leur transport sera très surveillé. Cette vaccination n'est pas obligatoire. Le Mexique, le Chili, le Costa Rica ont lancé hier leur campagne, tandis qu'en Turquie, les autorités ont annoncé qu'elles allaient recevoir prochainement une première commande d'un vaccin chinois contre le Covid, un vaccin qui serait efficace à plus de 91%. Bloqué depuis le début de la semaine en Angleterre à cause d'une nouvelle variante de ce Covid, les routiers débarquent chacun leur tour à Calais. La direction du port assure que la situation sera totalement réglée demain dans la journée. Plus de 1500 poids lourds sont déjà rentrés en France, munis d'un test négatif au Covid. Certains routiers arriveront cependant trop tard pour fêter Noël avec leurs proches. Malgré la pandémie qui a tué plus d'1,7 million de personnes sur Terre, les traditions persistent. Le pape vient d'adresser il y a quelques minutes son message de Noël Urbi et Orbi à la ville et au monde. François a dû s'adapter à cause du confinement en Italie et c'est donc par vidéo à l'intérieur du palais qu'il s'est exprimé pour éviter l'habituel rassemblement de fidèles sur la place Saint-Pierre. Voici donc un extrait de son message de fraternité.
En ce moment historique, marqué par la crise écologique et par de graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie de coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité. Non pas une fraternité faite de belles paroles, d'idéaux abstraits, de vagues sentiments, non. Une fraternité basée sur l'amour réel, capable de faire rencontrer l'autre, différent de moi, de compatir à ses souffrances, de s'approcher et d'en prendre soin, même s'il n'est pas de ma famille, de mon ethnie, de ma religion. En ces temps d'obscurité et d'incertitude en raison de la pandémie, apparaissent quelques lueurs d'espoir, comme la découverte des vaccins. Mais ils doivent être à la disposition de tous. Nous ne pouvons pas laisser le virus de l'individualisme radical nous rendre indifférents à la souffrance des autres. Je demande à tous, chefs d'État, entreprises, organismes internationaux, de promouvoir la coopération et non la concurrence, et de trouver une solution pour tous. Vaccins pour tous, et spécialement pour les plus vulnérables de la planète.
Le pape François est à la tête d'1,3 milliard de catholiques dans le monde. Cette communauté possède ses particularités culturelles, des habitudes qui persistent malgré le recul de la pratique religieuse. C'est ce qu'aborde dans son livre intitulé « La planète catholique » paru chez Talendier, le spécialiste de la géographie culturelle. Jean-Robert Pitt est l'invité de la rédaction ce midi. Bonjour Jean-Robert Pitt.
Bonjour.
Noël occupe une place à part dans nos vies, a déclaré Jean Castex, le Premier ministre, en expliquant qu'il serait donc possible de fêter Noël malgré la crise sanitaire. Et c'est pourquoi le couvre-feu a été exceptionnellement levé hier pour le réveillon du 24 décembre. Il faut donc comprendre par là que l'attachement à Noël est toujours très fort.
Oui, incontestablement, nous sommes dans un pays de tradition catholique, même s'il n'y a plus beaucoup de catholiques croyants, pratiquants et s'affirmant catholiques, mais ça fait partie des traditions de la France, malgré des moments difficiles dans la relation entre la nation française et sa religion majoritaire et l'État. Mais effectivement, Noël reste une fête très populaire, très familiale, qui reste la fête de l'enfance, de la générosité, du partage, de l'amitié, de la beauté, de la lumière. Donc tout ça reste très vivant et n'importe quel gouvernement l'aurait compris. Si le gouvernement avait décidé de maintenir le réveillon du jour de l'an comme il se fait d'habitude et de supprimer Noël, je pense que ça aurait été très 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 mal perçu par tous les Français.
D'après vous, les catholiques ont-ils vécu leur foi différemment cette année ?
Oui, les catholiques et les orthodoxes pour les pays orthodoxes ou pour la minorité orthodoxe de France, tout simplement parce que ils n'ont pas eu accès pendant plusieurs semaines à leurs lieux de culte, à leurs églises et qu'ils n'ont pas pu recevoir les sacrements. Or, dans la plupart des religions, aller dans le lieu de culte, le temple ou la synagogue ou la mosquée est important, mais n'entraîne pas d'événements religieux majeurs, alors que chez les catholiques et les orthodoxes, il y a les sacrements, en particulier l'Eucharistie, qui est le partage du pain et du vin devenu le corps et le sang du Christ. Et donc ça, pour un catholique romain et un orthodoxe, c'est fondamental. C'est ce que n'ont pas compris d'ailleurs souvent les protestants ou les juifs ou les musulmans, mais pourquoi les catholiques sont si hargneux, enfin ont-ils tellement envie de se retrouver dans leurs églises? C'est en raison des sacrements.
Vous êtes aussi un spécialiste de la gastronomie. Alors, à l'heure où on se met à table pour le repas de Noël, quel rapport ont les catholiques avec la nourriture? C'est un aspect que vous abordez d'ailleurs dans votre livre.
Oui, alors le catholicisme romain, comme l'orthodoxie d'ailleurs, n'a jamais considéré que la gourmandise, l'excès temporaire et exceptionnel de nourriture était un véritable grave manquement à la foi et à la morale. Chez les catholiques, vous savez, il y a le concept un peu compliqué à expliquer en dehors du monde catholique du péché mortel, péché véniel, et puis par ailleurs il y a les 7 péchés capitaux, dont la gourmandise fait partie. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'en analysant tous les textes depuis la fin du Moyen-Âge, depuis même saint Thomas d'Aquin, on s'aperçoit que la gourmandise a toujours été considérée dans le monde catholique comme, certes, un péché capital, mais jamais, ou très très rarement, comme un péché mortel. Commettre un péché mortel de gourmandise, ça veut dire manger trop et boire trop en disant « je le fais parce que je déteste Dieu ». Or, personne ne fait ça. On mange trop et on boit trop exceptionnellement parce qu'on a envie d'être ensemble, parce que on se laisse aller. Il y a une espèce de douce jouissance qui est tout à fait dans l'esprit du catholicisme, comme sur bien d'autres aspects. C'est une religion de l'incarnation. Le christianisme en général est une religion de l'incarnation où Dieu se fait homme. Et pour un chrétien, c'est vrai Dieu, y compris un protestant. C'est Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et donc on ne peut pas retirer la dimension humaine et sensuelle du Christ. Ce qui a souvent été fait, alors c'est le jansénisme, c'est un certain nombre d'hérésies de l'Antiquité, où le Christ ne serait qu'une sorte de pur esprit avec un corps ectoplasmique en trois dimensions, mais qui n'est pas un vrai corps. Or, c'est totalement contraire à la foi chrétienne.
On parle de la nourriture et le vin. Alors, le vin tient une place particulière ?
Ah oui, le vin a une place essentielle parce que le vin chrétien, et en particulier catholique, c'est-à-dire le vin de la transsubstantiation qui devient le sang du Christ, est une sorte, alors du point de vue anthropologique, là je ne parle plus de théologie, d'association étroite entre la tradition juive dans laquelle le vin est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes, depuis Noé, sacrifice de Melchisédek, etc. Donc dans toute la Bible, le vin revient 400 fois dans la Bible, comme signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est une sorte de don de Dieu qui rend joyeux, qui permet de voir Dieu. Et en même temps, c'est une alliance avec la tradition grecque, et en particulier le culte de Dionysos, puisque Dionysos est un dieu du panthéon grec, qui s'appellera Bacchus dans le panthéon romain, et qui s'incarne dans le vin. C'est-à-dire qu'au moment du symposium, le partage du vin à la fin des banquets grecs, le vin devient le dieu Dionysos lui-même. Et donc, quand on partage, on fait tourner la coupe autour des symposiarques, de ceux qui participent au symposium, on boit le dieu lui-même, on boit Dionysos. Et donc, le christianisme, c'est cette alliance étroite entre la tradition juive et la tradition grecque. C'est une tradition alors qu'on trouve aussi dans les religions mésopotamiennes, égyptiennes, etc., mais qui, vraiment, dans le christianisme, devient un point extrêmement fort, au point que les chrétiens, en émigrant et en convertissant la terre entière à partir du XVIe siècle, ont diffusé la vigne et le vin partout, tout autour de la terre, mais pour des raisons d'abord religieuses. Et en même temps, c'est une boisson de plaisir, c'est une boisson qui rend heureux, une boisson d'empathie. Et ça, c'est fondamental. Et le jour de Noël, boire du bon vin avec sa famille ou avec ses amis, c'est fondamental.
Avec modération, bien sûr. Dans votre livre, Dans votre livre, vous décrivez la répartition des catholiques dans le monde et l'influence du catholicisme sur l'organisation de l'espace géographique. Vous expliquez aussi que le protestantisme progresse. Alors, en résumé, pourquoi ?
Ah, il y a plein de raisons à ça. Je pense que c'est pas toutes les églises protestantes, hein. C'est l'évangélisme qui progresse, et en particulier parce que l'évangélisme a des rituels qui sont extrêmement chaleureux, des rituels de partage. On l'a vu d'ailleurs en Alsace, à Mulhouse, au moment où il y a eu un cluster, vous savez, autour d'un culte évangélique, et on a vu des photos, on a vu des reportages. C'était extrêmement chaleureux. Les gens se touchent, les gens se chantent entre eux, s'enlacent, et l'évangélisme a un côté très séduisant que les autres églises protestantes, le catholicisme et l'orthodoxie encore plus, ont abandonné. C'est-à-dire qu'il y a moins cet esprit missionnaire, voire prosélyte, surtout dans un pays comme la France où la laïcité fait partie de nos institutions, de notre constitution, et tant mieux. Donc dire en public je suis catholique, c'est presque gênant, et beaucoup de catholiques qui pratiquent et qui sont très croyants le disent le moins possible, en particulier dans le monde de l'entreprise. Il y a une espèce de retenue vis-à-vis de l'affirmation de la foi que les évangélistes n'ont pas. Et donc ça a beaucoup de succès en Afrique, en Amérique latine, dans certains pays d'Asie, comme les Philippines, où l'évangélisme progresse à grande vitesse par son côté très, très chaleureux.
Merci Jean-Robert Pitt, invité de la rédaction qui publie chez Talendier La planète catholique, une géographie culturelle. Interview à retrouver dans quelques minutes sur franceculture.fr. Soumaïla Cissé est mort du Covid-19. Le principal opposant malien avait 71 ans et venait d'être évacué à Paris pour y être soigné. L'ancien chef de l'opposition parlementaire avait été retenu en otage pendant 6 mois, puis libéré en octobre dernier, en même temps que la française Sophie Pétronin et 2 Italiens, en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes djihadistes. Malgré un contexte sécuritaire tendu, les centrafricains sont appelés à voter dimanche, à la fois pour la présidentielle et les législatives. Une coalition de groupes armés menace de marcher sur la capitale, Bangui. Des combats ont eu lieu dans différentes régions du pays. Certains questionnent la faisabilité du scrutin et des politiques lancent des initiatives pour repousser les élections. À Bangui, hier, 200 femmes ont marché pour la paix. Le reportage de Charlotte Cosset.
Nous voulons la paix et non la guerre.
Elles brandissent des drapeaux centrafricains et des branchages en signe d'apaisement. Encadrée par les chars de la mission onusienne, elle marche pour la paix. Lucienne ne voulait pas manquer cela.
Nous marchons pour notre pays et surtout pour la paix. Dans le monde, là, si les femmes se soulèvent, il y aura une solution. Nous, les femmes, c'est nous qui avons donné naissance à ces gens-là. C'est nous qui les avons nourris. C'est nous qui avons tout fait pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi ils nous font du mal comme ça? Nous, c'est nous les femmes qui souffrons beaucoup plus que les hommes. Alors nous voulons la paix. Nous voulons que ces hommes-là, il faudrait qu'ils déposent les armes afin que notre pays puisse prospérer.
Une démarche soutenue par certains acteurs politiques qui veulent voir les femmes aller voter dimanche. Virginie Mbaïkwa est la ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale.
Au stade où nous sommes arrivés, nous ne pouvons plus reculer. Et les gens sont prêts. Vous voyez l'engouement. Les gens retirent leur carte d'électeur. Je demande à toutes mes sœurs qu'on fasse un bloc pour aller au vote le dimanche prochain.
La participation des femmes au scrutin est très attendue. Elle représente environ 46% des électeurs enrôlés.
Charlotte Cosset à Bangui. Un peu de soleil pour Noël en France. Des éclaircies sont attendues presque partout. Quelques averses sont prévues, mais le temps deviendra plus sec dans la soirée. Pas plus de 5 degrés cet après-midi à Strasbourg, Lille, 6 à Bordeaux et Cherbourg, 8 à Marseille et 10 degrés à Nice. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Nicolas Paumet.